Kiosque Magazine.
Alors bonjour tout le monde, ici Serge Amelin en onde, qui va animer aujourd'hui tout seul comme un grand garçon. Kiosque Magazine que vous êtes habitué d'écouter à tous les lundis matin. Aujourd'hui, on est le lundi 10 août. Bon, hier c'était 9 août. Et là, il y a 10 août. Bon, alors on va parler aujourd'hui de différents sujets tirés de différents magazines. Par exemple, la revue Relations, on n'est pas habitué d'en entendre parler celle-là. Pour qui veut une société juste, on va parler d'un sujet, Israël-Palestine. C'est un sujet politique. Ensuite de ça, on va parler dans la revue Itinéraire, athlète féminine. Oui. Ensuite, on va s'attaquer aux cartes de crédit, aux cartes fidélité. Et là, on va en avoir pour notre argent ou on n'en aura pas pour notre argent. C'est ce que nous saurons. Alors, sans plus tarder, je commence avec un entretien avec Jeff Halper. Qui est Jeff Halper? C'est un universitaire, anthropologue, militant, objecteur de conscience. Il a été l'un des candidats au prix Nobel de la paix en 2006. Il est le fondateur et directeur du comité israélien contre la démolition de maisons. Il a publié chez Pluto Press, An Israeli in Palestine, Resisting Dispossession et Redeeming Israel, et publiera en septembre 2015 War Against the People, Israel, the Palestinians and Global Pacification. Il s'est entretenu avec nous au sujet du conflit israélo-palestinien. Pour ceux que ce n'est pas clair, ça risque de s'éclairer aujourd'hui. Alors, on a la question proposée par Relations. Alors, l'opération Bordure protectrice menée par Israël à Gaza pendant l'été 2014 a été particulièrement destructrice. Outre le prétexte officiel des tunnels et des tirs de roquettes, quels étaient les motifs d'une telle démonstration de force? Alors, M. Halper de répondre. Israël n'a jamais accepté l'idée d'une solution au conflit israélo-palestinien fondée sur deux États pour deux peuples distincts. L'échec du secrétaire d'État américain John Kerry à réactiver les pourparlers en avril 2014, a constitué le dernier clou dans le cercueil des négociations. Et depuis, le gouvernement israélien est dans un processus de nettoyage, « mopping up » qu'on appelle. Son message aux Palestiniens est « oubliez les négociations, oubliez la solution à deux États, il n'y a pas deux parties en cause. Ici, vous n'avez aucune importance. Vous avez trois options. » La première, vous vous soumettez, ce qui revient à reconnaître qu'il n'y a qu'un pays, que ce pays est le nôtre et qu'il est juif. Alors, nous vous permettrons d'y vivre individuellement comme arabes, mais pas en tant que palestiniens. La deuxième option, vous quittez. Et la troisième, vous mourrez. Je pense que c'était le message derrière l'opération Bordure protectrice, à savoir que l'idée de deux États est maintenant dépassée et que les négociations n'ont plus lieu d'être et que l'autorité palestinienne est inutile. La démonstration de force à Gaza s'explique aussi par deux autres raisons. La première est la doctrine militaire prônée par Israël, qu'on appelle la doctrine d'Aïa. D'Aïa est une ville près de Beyrouth qui a été détruite par l'armée israélienne lors de la guerre contre le Liban en 2006. Et cette doctrine consiste en l'utilisation d'une force disproportionnée. Même si le droit international interdit une telle pratique, Israël réplique. Nous le ferons quand même. Donc, cela fait partie du message « Vous mourrez si vous ne vous soumettez pas ». Et la deuxième raison pour laquelle ils ont fait cette guerre est qu'elle permettait de tester une panoplie d'armes nouvelles sur les Palestiniens. Eh oui. Par exemple, le drone Hermès 900 a été utilisé pour la première fois à Gaza. Une autre arme, le Namer, semblable au tank Merkava, il a aussi été utilisé pour la première fois. Et c'est sans compter toutes sortes de bombes, de tactiques, d'outils et de systèmes robotiques. En d'autres termes, Gaza est un laboratoire. Alors, une question posée par Relation. Vous avez témoigné devant le tribunal Russell sur la Palestine à Cape Town, en Afrique du Sud, en novembre 2011. Et quelle était la teneur de votre témoignage? Alors, j'ai témoigné sur la question de l'apartheid. J'ai dit, et les juristes l'ont confirmé, que l'occupation israélienne des territoires palestiniens est un apartheid, en expliquant pourquoi. Un des points sur lesquels j'ai insisté est que le gouvernement israélien lui-même qualifie la situation d'apartheid. Le mot hébreu qu'il utilise est « afrada », qui veut dire « séparation ». Par exemple, en Israël, on désigne le mur construit pour séparer Israël des territoires palestiniens de murs de séparation. Autrement dit, un long plaidoyer n'est pas nécessaire, Israël l'admet lui-même. Mais il y a une situation pire que l'apartheid, c'est celle de l'entreposage, warehousing. Cette idée vient du système pénitentiaire américain, où les prisonniers sont logés dans une forme d'entrepôt. C'est chic. Ils sont enfermés, détenus et n'y ont aucun droit. Et personne ne les voit, personne ne se soucie d'eux et ils se rebellent. Les gardiens de prison ont le droit de les réprimer, c'est leur travail. C'est la façon qu'ont les autorités israéliennes de concevoir les Palestiniens comme des détenus et non comme la partie d'un conflit, ni même comme des ennemis. Le message est, vous êtes tout simplement des détenus et en tant que tels, vous pouvez vivre dans la prison, nous allons vous y nourrir, vous pourrez obtenir un peu de travail, etc. Par ailleurs, c'est une prison dont la porte arrière est ouverte. Si vous voulez aller en Jordanie ou en Égypte et à l'extérieur, alors tout va bien. Mais si vous résistez, vous allez mourir. C'est de cette façon qu'Israël conçoit cette situation. Et c'est la même chose pour les Palestiniens de Jérusalem, de Gaza, d'Israël et de Cisjordanie. Il n'y a aucune distinction. Par exemple, l'année dernière, la police israélienne a démoli 3 fois plus de maisons de citoyens israéliens qu'elle ne l'a fait en Cisjordanie. Ces citoyens, bien sûr, sont des Arabes, soit palestiniens, soit bédouins. Et un des slogans que l'on entend fréquemment en Israël, lequel remonte, je crois, à l'époque de Yitzhak Rabin, était premier ministre, est « Nous n'avons jamais terminé 1948 ». Dans un sens, ce que fait le gouvernement israélien actuellement, c'est d'achever l'expulsion des Palestiniens entreprise lors de la guerre de 1948. Alors, une petite question. Quelle est la solution à vos yeux pour sortir de cette situation tragique? Ben, selon moi, il faut établir un État binational, une démocratie fondée sur un partage des pouvoirs entre groupes nationaux, comme en Suisse ou en Irlande. Évidemment, ceci suppose que chacune des nations, juives et palestiniennes, reconnaissent officiellement l'autre et son droit historique à demeurer en Palestine-Israël. Ceci dit, c'est aux Palestiniens de déterminer la solution qu'ils favorisent. Je ne peux que leur faire part de mon avis, je ne peux pas les représenter. Ce que j'essaie de faire, pardon, en quelque sorte, est de leur dire « Je comprends que vous êtes en transition et que vous savez que la solution à 2 États, soit l'existence d'un État palestinien indépendant aux côtés de l'État d'Israël, n'est plus possible compte tenu de l'expansion fulgurant des colonies de peuplement israéliennes et du nombre important de colons israéliens demeurant aujourd'hui en Cisjordanie, plus d'un 500 000. Je comprends qu'une solution à un État est un grand pas à faire pour les Palestiniens, et cela signifie de renoncer à une lutte de libération nationale et de la transformer en une lutte pour les droits civiques. Je comprends que ce n'est pas chose facile et que de nombreux Palestiniens voient cela comme une forme douce de sionisme, car cela signifie reconnaître qu'il y a une présence nationale israélienne. Je comprends qu'il y a donc beaucoup de raisons pour lesquelles les Palestiniens résistent et hésitent à adhérer à cette vision. À l'heure actuelle, la solution à un État reste un débat académique. Elle n'est pas sur la table, mais elle deviendra pertinente car, avec l'effondrement que j'entrevois, je pense que l'autorité palestinienne va disparaître, qu'elle va soit s'effondrer, soit démissionner avant de perdre toute crédibilité aux yeux de la population palestinienne qui voit sa situation se détériorer de jour en jour. La solution à 2 États sera anéantie et tout le monde cherchera une alternative. Et je crois que ce conflit est un conflit mondial, de sorte que la communauté internationale ne peut laisser faire indéfiniment. Notre rôle en tant que société civile de gauche est de proposer une solution juste. On ne peut pas laisser cela uniquement entre les mains des gouvernements. Si nous ne proposons pas une solution juste, quelqu'un d'autre proposera une autre solution et nous aurons perdu la bataille. Malheureusement, les Israéliens et les Palestiniens qui remettent en cause l'ordre actuel ne produisent pas de stratégie commune. Nous sommes des partenaires et pourtant nous ne nous parlons pas. Et depuis quelques années, il y a un refus de plus en plus marqué de la part des Palestiniens de normaliser les relations avec qui que ce soit en Israël. Et cette poussée anti-normalisation, je la comprends émotionnellement, mais politiquement, elle est contre-productive. C'est d'autant plus ironique que c'est la société civile palestinienne qui a défini ce qu'est la normalisation. Le Palestinian Network et Non-Governmental Organization, le PINGO, a lancé un appel en 2006 précisant que si une organisation israélienne se conforme à trois principes, elle peut être un partenaire. Ah bon? Alors, ces principes sont le droit au retour des réfugiés palestiniens de 1948 et 1967, la fin de l'occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza et l'égalité pour tous les citoyens d'Israël, y compris les Palestiniens qui y demeurent. Pourtant, au fil des années, il y a eu une érosion de ces principes. Comment expliquer autrement qu'en septembre 2014, la journaliste de gauche, Amir Haas, ait été expulsée du campus de l'université Birzeit, près de Ramallah, simplement parce qu'elle est israélienne? On en est arrivé à un point tel que ni Amira, ni le comité israélien contre la démolition de maisons, ni même les Israéliens antisionistes ne peuvent avoir un véritable dialogue avec les organisations palestiniennes, et c'est un problème important. Je vous reviens dans quelques instants pour la suite. Alors, en conclusion, comment voyez-vous les liens entre le gouvernement israélien et le gouvernement canadien? Alors, M. Halpert de dire, ils sont très inquiétants. En 2008, Stockwell Day, qui était alors votre ministre de la Sécurité publique, a signé une déclaration d'intention avec le gouvernement israélien visant à accroître la coopération dans le domaine de la sécurité publique. Le protocole d'entente du partenariat stratégique Canada-Israël, signé en janvier 2014, a suivi. Et en vertu de cet accord, le Canada implique Israël dans des affaires intérieures, par exemple, le fonctionnement des prisons, le contrôle des frontières, l'immigration, la répression de la criminalité, la formation de la gendarmerie royale du Canada. Et c'est inhabituel. D'ordinaire, tout gouvernement tient les États étrangers à l'écart de ce genre de prérogatives. Il ne souhaite pas qu'ils interviennent dans ses affaires intérieures, et c'est une question de respect de sa souveraineté. Et cette attitude montre à quel point le gouvernement conservateur de Stephen Harper accorde l'importance à l'appareil de sécurité israélien. Il faut savoir qu'Israël offre ainsi son expertise à différents pays, étant devenu un spécialiste du contrôle de population, y compris de l'incarcération de prisonniers politiques. D'une certaine façon, cet accord conduit vraiment à l'israélisation des services de sécurité intérieure du Canada, ce qui, de mon point de vue, est beaucoup plus grave que n'importe quelle coopération militaire. C'est quelque chose d'énorme. Vous savez, un État peut toujours faire appel à des services venant de l'étranger, acheter de l'équipement et envoyer du personnel, recevoir de la formation. Mais ici, on parle d'une sorte de relation permanente de gouvernement à gouvernement qui permet à Israël d'intervenir sur le plan de votre sécurité intérieure. Je pense que c'est un cran au-dessus de la coopération normale en matière de sécurité. Et par ailleurs, cette situation n'est pas sans lien avec le fait que tous les partis fédéraux canadiens sont pro-Israël. Pourquoi? C'est la vraie question. Le rôle que joue le lobby pro-israélien au Canada ne peut suffire à l'expliquer, ni les fondamentalistes chrétiens. Qu'est-ce qui unit tous ces partis et les rend si favorables à l'État israélien? Ma réponse est la sécurité militaire, l'expertise militaire grandissante que les firmes israéliennes exportent aux quatre coins du monde et dont les gouvernements estiment avoir besoin pour assurer la pacification des populations dans un monde marqué par des écarts socio-économiques de plus en plus grands. Alors, ces propos ont été recueillis et traduits par Michael Séguin avec la collaboration de Mouloud Idir, et tout cela était écrit dans la revue Relations.
C'est le fil de ma destinée. Une drôle de fille fascine ma carcasse émoussée. Une drôle d'histoire a pris naissance dans ma caboche. Une drôle de chute m'a fait l'effet d'une bonne taloche. Quand même bizarre ce que ça peut faire. Deux beaux yeux et le mystère des phéromones. Une drôle de fétiche, le fil de ma destinée. Une drôle de fille fascine ma carcasse émoussée. Une drôle d'histoire a pris naissance dans ma caboche. L'effet d'une balle t'arrache. Quand même bizarre tout ce que je peux t'aider. Couché au fond de ma tanière, tout ce qui grisonne. Quand même bizarre qu'un coup de tonnerre sonne mon réveil avant. C'est une drôle de fée qui tisse le fil de ma destinée. Une drôle de fille fascine ma carcasse émoussée. Une drôle d'histoire a pris naissance dans ma caboche. Une drôle de chute m'a fait l'effet d'une balle.
Bon. OK. Alors, on continue dans la revue L'Itinéraire. On va parler des athlètes féminines. Le saviez-vous? Dans les années 1890, les premières équipes féminines de hockey apparaissent au Québec. 1890, c'est pas d'hier, hein? Au début du 20e siècle, le basketball, sport inventé par le Canadien James Naismith, est le sport le plus populaire chez les femmes. Et alors qu'elles pratiquaient des sports comme le bagatoué, c'est l'ancêtre de la crosse à l'époque précoloniale, les femmes autochtones brillent par leur absence en sport. Hormis la balle molle, toute autre activité sportive leur a été interdite pendant de trop longues années. Alors, les athlètes féminines d'hier, malgré d'importantes avancées dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes, le ratio du genre dans le sport reste inégal. Les athlètes féminines font face à un adversaire redoutable, la société patriarcale. Retour sur les origines du sport féminin au Québec avec l'historienne Élise Detellier, auteure du livre « Mise au jeu, les sports féminins à Montréal de 1919 à 1961 ». Et cet article nous est présenté par Julie Levasseur dans la revue Itinéraire. Si le sport est le lieu par excellence où se définit l'identité masculine, la participation des femmes ne s'est pas faite sans heurts, écrit d'entrée de jeu Élise Detellier. Dans un Québec, sous le joug de l'Église, quand des bourgeoises anglo-protestantes de Montréal montent à bicyclette pour la première fois au début du 20e siècle, certains médecins crient au scandale en avançant que cette pratique pourrait causer un orgasme féminin. Oh là là, je ne la savais pas celle-là. L'accès au sport a lieu plus tard pour les Canadiennes françaises, vers 1919. Mais l'immoralité et la masculinisation font toujours partie des nombreux risques que courent les sportives en s'adonnant à certaines activités sportives. Les religieux exhortent les jeunes Canadiennes françaises à la modestie pour démontrer leur attachement au modèle traditionnel de la féminité, c'est-à-dire demeurer pure pour trouver un mari et fonder une famille, précise l'historienne. La théorie du déterminisme biologique est un autre obstacle de taille. À l'époque, de nombreux médecins considèrent que les capacités physiques des femmes sont naturellement inférieures à celles des hommes. Pour eux, le corps de la femme est uniquement destiné à la reproduction. Les sportives sont mises en garde contre les blessures causées par des efforts trop exigeants et qui pourraient poser des risques pour leur maternité, commente Madame Detellier. Incroyable, hein? Les femmes doivent donc se contenter de sports adaptés à la fragilité féminine, comme la natation, la gymnastique, le volley-ball, le basketball, on ne parle pas de badminton. Ah bon? Les règlements y sont modifiés, car les spécialistes estiment aussi que le sport de compétition ne convient pas à la nature féminine. La pratique sportive devait mettre en valeur des qualités reconnues comme féminines, la grâce, l'entraide, la délicatesse. Elle devait favoriser l'épanouissement personnel des femmes à la fois pour maintenir leur santé et rehausser leur beauté, ajoute l'auteur. Le culte de la beauté. La pression des femmes de correspondre à des idéaux de beauté ne date pas d'hier, et après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement à compter des années 60, l'idée de séduction naît dans le milieu des sports féminins, souligne Élise Detellier. L'aérobie transforme le rapport des femmes à leur corps alors qu'est vendue l'idée du sport pour maigrir et pour plaire. Et c'est le début de l'hypersexualisation des sportives qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec, par exemple, certaines tenues athlétiques. Encore en 2015, la culture patriarcale affecte les athlètes féminines, déplore l'historienne. On ne reconnaît pas assez les efforts des sportives qui sont présentées comme des athlètes de second rang. Et tout ce qui peut être lié à la féminité, la beauté, la famille, les relations amoureuses est mis en avant aux dépens des performances. Même les salaires sont inférieurs à ceux des hommes. Élise Detellier estime que estime qu'il reste beaucoup de travail à faire pour l'égalité des sexes dans les sports. Même si les filles et les femmes ont plus facilement accès à un large éventail de sports qu'au siècle précédent, la couverture médiatique des sports féminins n'est toujours pas suffisante. Il faut davantage de visibilité pour intéresser le public et encourager les jeunes filles à s'inscrire dans les ligues sportives, conclut-elle. Alors voilà, c'était écrit par Madame Julie Levasseur. Et ici, on a une petite entrevue qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors, on a une petite entrevue ici avec Marie-Ève Nault, écrite par Nafi Alibert. Alors, bannie des terrains de sport, il y a quelques décennies encore, les femmes ont su se tailler petit à petit une place dans le sport de haut niveau. Et à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, pour ceux qui l'ont vu, c'était extrêmement intéressant. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de supporters. Ça s'est tenu au Canada cet été. L'itinéraire s'est entretenu avec Marie-Ève Nault, une des trois joueuses québécoises sélectionnées par l'équipe nationale de soccer. Vous souvenez-vous? Ça a été extrêmement populaire. On a découvert les socceroises ou les footballeuses. Alors, aujourd'hui, le soccer est-il votre seule activité? Elle dit oui, ça fait 2 ans que je joue comme professionnelle au KIF Örebro, un club en Suède. Et en général, je pars de février jusqu'en juillet pour la saison là-bas. Et en juillet, j'ai 3 semaines de congé. Je repars fin juillet jusqu'à fin octobre. Et avec le recul, est-ce plus difficile de vivre d'un sport professionnel quand on est une femme? C'est sûr. Les hommes gagnent des millions. Et nous? C'est très rare qu'on gagne la même chose pour une saison, mais du côté féminin, on le fait plus pour la passion que pour l'argent. Et qu'est-ce que vous pensez de la condition des femmes dans le sport? Elle s'est énormément améliorée. Il n'y a pas si longtemps, le soccer était encore uniquement réservé aux hommes. Mais il y a désormais beaucoup de clubs professionnels avec une équipe féminine, et c'est bien qu'il y ait enfin eu ce développement pour encourager les femmes à avoir une bonne place dans le sport, non seulement du côté des joueuses, mais aussi du côté des entraîneuses. Il y a de plus en plus de femmes qui font leur marque. Pensez-vous que le sport soit encore un enjeu pour lequel les femmes doivent se battre pour s'affirmer et exister? Au niveau mondial, même si notre équipe est mieux classée, 8e, que celle des hommes, 100e, ils ont quand même plus de support financier que nous qui devons nous battre pour en avoir. Mais je vois que les choses évoluent dans le bon sens. Il y a maintenant de plus en plus de personnes qui se rendent compte que le soccer féminin est tout aussi excitant que le soccer masculin, même si le style est différent. Alors voilà, c'était une entrevue avec Marie-Ève Nault, réalisée par Nafi Albert dans la revue L'Itinéraire. Et il y a une petite brève pour terminer, peut-être? Toute petite. Alors, dans quelques années, vous pourriez acheter des vêtements capables de prévenir eux-mêmes les secours en cas de malaise. Saviez-vous ça? Des chercheurs de l'Université Laval ont mis au point une fibre intelligente qui capte vos informations biomédicales. Alors, cette fibre de la grosseur d'un cheveu qui se tisse avec de la laine ou du coton est en instant...
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Avez-vous une carte de crédit? Et avez-vous une carte de fidélité? Ou avez-vous des cartes de fidélité? Combien en avez-vous? Eh bien, la revue Protégez-vous a fait une enquête personnelle sur les cartes de fidélité. Et on a dénoté les meilleurs qui donnent le plus d'argent pour vous. Et j'ai le résultat ici et je ne vous le dirai qu'à la fin. Là, je vais vous parler ici de 5 questions qu'il faut se poser. N'adhérez pas à un programme de récompense les yeux fermés. Les contrats renferment de nombreuses clauses avec lesquelles vous pourriez ne pas être d'accord. Il y a 5 questions à se poser. Avez-vous bien lu les conditions générales? Première question. Ces dernières sont à prendre ou à laisser, rappelle le Centre pour la défense de l'intérêt public, un organisme pancanadien de défense des consommateurs qui a publié en 2013 une enquête sur les programmes de fidélité. Autrement dit, vous ne pouvez pas en négocier les conditions. Lisez bien les modalités du contrat. Vous y apprendrez, entre autres, comment accumuler des points, 1 000 ou autres dollars, et comment les convertir en récompenses. Comment vos données personnelles pourront être utilisées? Et s'il existe des conditions d'expiration ou de modification du programme? Quelles sont les modalités pour vous désinscrire? Et selon Franck Ponce, professeur au département de marketing à l'Université Laval, en adhérant, les consommateurs acceptent de nombreuses choses sans s'en rendre compte. Ils autorisent, par exemple, le partage de leurs données personnelles. Eh oui. En fait, précise le chercheur, ils se soucient du contenu du contrat seulement lorsqu'ils ont un problème, notamment lorsque l'émetteur de leur carte décide d'abaisser la valeur de leurs points. Les points peuvent-ils changer de valeur? Question numéro 2. La plupart des commerçants se réservent le droit de modifier les modalités du contrat en tout temps et à leur convenance. Cela peut toucher les règles d'accumulation des points, la valeur des points accumulés et la durée de validité des points ou du programme. Ce faisant, les fournisseurs cherchent avant tout à s'assurer que leur programme restera profitable, rappelle le CDIP dans son enquête. Mais ces pratiques sont susceptibles de léser les consommateurs et c'est pour le démontrer qu'un recours collectif a été déposé en 2010 contre le programme PharmaPrix Optimum, auquel on reprochait d'avoir réduit unilatéralement la valeur de ses points. Plusieurs programmes de fidélisation ont dans leur contrat une clause leur permettant de changer la valeur des points, rappelle maître Marie-Anaïs Sauvé, associée du cabinet Sylvestre Fafard-Pinchot, qui s'occupe du recours collectif. Nous considérons que soit cette clause est abusive, soit l'utilisation qu'en font les compagnies est abusive, car on ne peut pas modifier un élément essentiel du contrat sans avoir prévu sur quoi pourrait porter cette modification et dans quelles circonstances elle pourrait intervenir. La Cour supérieure du Québec a autorisé le recours en 2012 et la procédure suit son cours. La troisième question. Mes points ont-ils une date d'échéance? La durée de validité des points peut être modifiée, sans préavis. Les membres du programme Aéroplan l'ont appris à leurs dépens en 2006. La compagnie a décidé qu'un membre perdrait tous ses 1000 si son compte demeurait inactif plus de 12 mois et que les points d'un compte inutilisé pendant 7 ans disparaîtraient automatiquement. Dans le cadre d'un recours collectif autorisé en 2012, des consommateurs ont dénoncé cette pratique et demandé que les points perdus leur soient restitués. Et l'action suit son cours. Dans les conditions générales du programme WestJet, il est précisé que votre compte demeurera actif à la discrétion de WestJet. S'il a enregistré de l'activité au cours des 12 derniers mois. Et selon Jonathan Bishop, analyste du CDIP, ce genre de pratique désavantage les consommateurs, surtout si l'on considère que nombre d'entre eux ont passé des années à investir dans les programmes de fidélisation de leur choix. Quatrième question. Deux personnes peuvent-elles utiliser la même carte? La situation varie d'un programme à l'autre. Par exemple, la carte Espace Beauté Family Prix limite l'adhésion à un seul détenteur par succursale et l'abonnement au programme n'est pas non plus transférable à une autre personne. Chez AirMiles, par contre, vous pouvez demander des cartes supplémentaires pour d'autres membres de votre foyer, mais des frais pourraient s'appliquer. Les 1000 s'accumulent alors dans un seul compte. Et la cinquième et dernière question, mes données personnelles sont-elles bien protégées? Et c'est la principale inquiétude des consommateurs. Et selon un sondage réalisé par la firme Loyalty One, qui administre le programme AirMiles au Canada, 81% des répondants canadiens et américains disent craindre que les entreprises partagent leurs renseignements personnels sans avoir obtenu leur permission au préalable. Et cette inquiétude est-elle justifiée? Et si l'on se fie aux conditions générales de certains programmes, comme celui d'AirMiles, le doute est permis. Car si la compagnie explique dans un premier temps qu'elle ne vend ni ne loue les listes d'adhérents à aucune entreprise ou personne, elle précise ensuite qu'une telle restriction ne s'applique pas à ses propres sociétés affiliées, ses commanditaires, ses fournisseurs et les sociétés chargées de traiter et de gérer les transactions des adhérents, les demandes d'échange, les études, les analyses et les communications. Bon, alors ce qui commence à faire beaucoup de monde. À l'inverse, le programme Mondou Câlin affirme que vos renseignements personnels ne seront jamais transmis à d'autres entités extérieures, à JE Mondou Limité, à des fins de marketing ou de sollicitation. L'entreprise assure par ailleurs se conformer à la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La LPRD PDE exige des entreprises qu'elles respectent plusieurs obligations, rappelle Valérie Lawton, conseillère principale en communication au commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Elles doivent en particulier bien vous informer sur les fins de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de vos renseignements personnels ou obtenir votre consentement avant ou pendant la collecte des renseignements, de même qu'au moment où une nouvelle utilisation des renseignements est effectuée. Et si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels circulent d'une base de données à l'autre, privilégiez les programmes de récompense qui vous demandent votre consentement et vous permettent de refuser la collecte de données personnelles. Voilà. Nous allons entrer dans le vif du sujet bientôt. Combien devez-vous dépenser dans votre boutique préférée pour obtenir un cadeau de 100 $?
Beaucoup.
Le montant a de quoi surprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. La chargée de projet, c'est Clémence Lamarche et le journaliste est Rémi Leroux. Est-ce que vous êtes bien récompensé? Depuis avril 2015, les étudiants de l'Université Bishops à Sherbrooke peuvent payer leurs études avec leur 1000 aéroplans. Mm-hmm. Chaque tranche de 35 000 leur vaut un crédit de 250 $ et ils peuvent même utiliser les points des membres de leur famille ou de leurs amis. Les producteurs agricoles ont eux aussi la possibilité de récolter des primes grâce au programme Ag Solutions Récompense du géant de l'agrochimie BASF, B-A-S-F. Les cartes de fidélité sont décidément partout, même là où on ne s'y attend pas. Si vous ressemblez aux consommateurs sondés par Yahoo Canada en 2015, vous êtes membre d'au moins 4 programmes de récompense. Autant de cartes qui alourdissent votre portefeuille, mais qui vous rapportent quoi? Pour le savoir, nous avons analysé près de 30 programmes dans différentes catégories, épicerie, cosmétiques, voyage, essence, etc., et établi leur ratio, c'est-à-dire le rapport entre l'argent dépensé et la prime obtenue. Certaines cartes sont peu avantageuses. Devinez laquelle. Comme mon argent Canadian Tire. Son ratio étant de 0,25%. Vous devez dépenser 40 000 $ pour avoir droit à une prime de 100 $. Gardez toutefois à l'esprit que la qualité d'un programme dépend avant tout de l'utilisation que vous faites de vos cartes, dit Frank Ponce, professeur au département de marketing de l'Université Laval. Les consommateurs les plus assidus et les plus disciplinés sont souvent les mieux récompensés. Par ailleurs, au-delà de la valeur des cadeaux, certains enjeux liés aux cartes, notamment l'utilisation des données personnelles, inquiètent les consommateurs. On en a parlé tantôt, et c'est du moins l'avis du Centre pour la défense de l'intérêt public, un organisme pan-canadien de défense de consommateurs qui a publié en 2013 une grande enquête sur les programmes de fidélisation. Malgré ces craintes, plus de 31 millions de Canadiens se prêtent au jeu et tentent de gagner de petites primes ou de grandes récompenses. Plusieurs programmes. Air Miles. Celle-là, je me la posais comme question. Moi, j'ai la réponse. Vous allez voir ça tantôt. Prime HBC, Sane, Pharmacie Optimum, etc. offrent de bien meilleurs ratios lorsqu'ils sont associés à une carte de crédit. Alors, nous préparons d'ailleurs un dossier sur le sujet pour notre édition de janvier 2016. Alors, on y reviendra. Mais qu'en est-il lorsque les cartes de fidélité ne sont pas jumelées? Alors, on a un résultat d'enquête que je vous partagerai un peu plus tard. L'adhésion à la plupart des programmes de fidélisation est gratuite. Pour ceux qu'on a évalués, seul CA Québec, 88 $, The Body Shop Love, Your Body, 10 $, impose des frais. La majorité des cartes sont associées à un seul détaillant, celle de la boutique pour Animaux Mondou, par exemple. D'autres, comme Air Miles ou Aéroplan, vous permettent d'accumuler des points et de les dépenser dans des dizaines de commerces différents. Comparer les programmes de fidélité n'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout, ça. Car la nature de leurs primes varie beaucoup, rappelle Franck Ponce. Certains offrent des récompenses en argent, comme la carte PC+, avec laquelle vous pouvez réduire votre facture d'épicerie. D'autres proposent des rabais sur des produits ou des cadeaux en échange de points accumulés. C'est le cas de la carte SO Extra qui vous offre 2 billets de cinéma en échange de 4500 points. Avec lequel de ces deux types de programmes retirez-vous le plus grand bénéfice? Ben, difficile à dire, selon Franck Ponce. Tout dépend de ce que vous préférez. Recevoir un rabais ou un cadeau immédiatement ou attendre longtemps pour échanger vos points contre un voyage ou une prime plus importante? Ah, les voyages. Lors de notre analyse, nous avons constaté qu'il n'est pas toujours facile de savoir comment accumuler des points et contre quelles récompenses il est possible de les échanger. Et par exemple, il faut s'abonner au programme Miliplein de Éco pour savoir ce que peut rapporter la carte, le site web du commerçant fournissant peu d'informations. Donc, il faut s'abonner au programme Miliplein de Éco, si on veut savoir. Une carte, un commerce, un bon ratio. Les programmes associés à un seul détaillant sont ceux qui présentent en général les meilleurs ratios. Prenons la carte grand buveur David T. Hein? David's T, yes. Qui vous permet d'accumuler un point par dollar dépensé. Alors, vous pourrez échanger 100 points contre 50 grammes de thé. C'est une récompense d'une valeur d'environ 10 $. Oh. Et la carte saine, elle, issue d'un partenariat entre Cineplex Divertissement et la Banque Scotia, fait aussi partie des programmes intéressants et son ratio est de 10 %. Après 10 entrées au cinéma, la 11e est gratuite. Vous accumulez également des points à l'achat de produits alimentaires, boissons gazeuses, maïs soufflé, et vous obtenez un rabais de 10 % sur votre billet le mardi. Les cartes associées à un seul commerçant ne sont cependant pas toutes profitables. Le programme Mon argent de Canadian Tire ne vous remet que 25 cents par 100 $ dépensés. La carte Prime HBC de la baie du Tisson, quant à elle, vous donne un point par dollar, mais il faudra 20 000 points, donc 20 000 $ dépensés pour obtenir un chèque cadeau d'une valeur de 100 $. Alors, en avez-vous assez pour l'instant? On va mettre un petit peu de musique, peut-être.
Se faire là-bas, à quoi? Fais-toi en pas, tout le monde fait ça. Ouvrir la porte et puis sortir. Puis avoir envie de revenir. De se coucher puis de dormir. Parce qu'il fait trop bon soleil. Savoir où partir. Fais-toi en pas, tout le monde fait ça. Marcher tout seul sur le trottoir, rencontrer des gens solitaires, aimer mieux regarder par terre les sacs de chips et crapoutis. Les paquets vides de cigarettes, se parler tout seul, se dire hostile, se dire y est temps que ça arrête, tout le monde fait ça, fais-toi en pas. Prendre le métro, descendre à pile, parce qu'il faut débarquer. Sortir, parce que partout c'est plat à mort. Prendre un café à pharmacie, au coin de Sainte-Catherine et Guy. Laisser un tip puis dire merci. Fais-toi encore. Changer la vie et s'endormir avec l'ennui. Après avoir perdu son temps, personne n'a pu faire autrement.
Nous voici de retour avec notre enquête sur les cartes de fidélité. Alors, pour ceux et celles qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, vous avez peut-être saisi que la carte argent Canadian Tire ne se classerait pas peut-être la première, mais plutôt la dernière. On va voir, on continue. Alors, il y a des cartes de fidélité dans différents domaines. Il y a les cartes de fidélité dans les domaines du voyage, dans le domaine des épiceries, de l'essence et des soins personnels et cosmétiques. Alors, il y a Air Miles et Aéroplan, et ces programmes sont parmi les plus populaires au Québec dans le domaine du voyage. Ils figurent toutefois au nombre de ceux qui rapportent le moins. Ah, par dollar dépensé. Par exemple, avec Air Miles, vous devez débourser 20 000 781 $ pour avoir droit à une prime de 100 $. Et avec Aéroplan, 16 240. Cependant, l'avantage de ces deux cartes est leur polyvalence. Elles vous permettent d'accumuler des points dans de nombreux commerces. Mais quand même, il faut acheter pour 20 781. Si vous gagnez 20 000 $ par année, vous ne pouvez pas... Alors, qu'obtiendrez-vous après un an? Alors, si vous achetez seulement dans les commerces qui acceptent votre carte Air Miles ou Aéroplan, quelle sera la valeur de votre prime après 12 mois? Eh bien, pour le savoir, nous nous sommes basés sur les dépenses mensuelles moyennes des ménages québécois. Et ces données sont tirées de l'enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada 2012. Et pour les principaux postes budgétaires, épicerie, automobile, vêtements, on a calculé le nombre de points cumulables chaque mois dans les magasins participants, puis la valeur de la récompense par mois et enfin par année. Par exemple, un ménage québécois dépense mensuellement 260 $ en moyenne en vêtements et accessoires. En effectuant tous vos achats dans des magasins partenaires d'Aéroplan, Gap, Old Navy, Banana République, etc., vous obtiendrez des 1000 qui ne vaudront en récompense que 2 $ 12 cents. Pas de quoi s'énerver. Si vous êtes membre d'Air Miles, vos 1000 accumulés en dépensant le même budget dans des commerces associés Aldo, Beyond the Rack, Forever 21 ne vaudront qu'un $1.36. Ainsi, au bout d'un an, vos dépenses de 1650 $, toutes catégories de produits confondus, vous donneront droit à une récompense d'à peine 101 $ avec Air Miles et 221 $ avec Aéroplan. Hein, c'est le fun, non? Le programme CA Québec, lui, CA. L'adhésion de base à CA Québec coûte 88 $ et comprend entre autres l'assistance routière partout en Amérique du Nord, des rabais sur les frais de service à l'agence de voyage CA et le programme de rabais dollars CA. La carte CA Québec est une carte polyvalente. Il est possible d'accumuler des dollars. Un dollar CA égale à un dollar. Alors, dans quelques commerces, la Cage au sport, Couche-Tard, Family Prix, Lunetterie New Look et Best Western. Ces derniers sont par contre trop peu nombreux pour nous permettre de comparer ce programme à Air Miles et à Aéroplan. Bon. Alors, plus intéressant pour les voyages, avec Aéroplan, si vous achetez des billets d'avion, vous accumulerez davantage de points qu'avec tout autre type d'achat. Si vous achetez, par exemple, un billet d'Air Canada ou d'un de ses partenaires, vous obtiendrez environ 3,5 points par dollar dépensé selon la destination, le moment du vol, etc. Contre un point par dollar dépensé à la pharmacie Uniprix ou à la boutique de cosmétiques Sephora. Et avant de pouvoir voyager gratuitement, vous devrez néanmoins faire preuve de patience. Voici ce qu'il vous en coûtera pour bénéficier gratuitement d'un vol aller-retour entre Montréal et Paris pour une personne. Bon. Alors, les points requis, c'est 6 700. Eh bien, avec Air Miles. Et les points requis, c'est 60 000 points requis pour un voyage Montréal-Paris. Le montant dépensé pour obtenir un point est de 21 $90 chez Air Miles et 1 $30 à Aéroplan. La somme dépensée pour obtenir les points nécessaires pour avoir votre voyage gratuit. Eh bien, c'est 146 730 $ avec Air Miles Et avec Aéroplan, 78 000 $. Donc, c'est mieux Aéroplan, quoique c'est un peu cher. Et après avoir chèrement gagné votre vol gratuit, vous aurez à payer certaines taxes aéroportuaires et autres surcharges de carburant, en particulier pour les vols vers l'Europe. Et ces frais peuvent constituer des irritants pour les consommateurs. En décembre 2014, deux demandes de recours collectifs, ont été déposées contre Aéroplan par des clients qui ont dû débourser des frais supplémentaires pour des billets d'avion payés avec les points qu'ils avaient accumulés. Ah, c'est pas toujours facile, en plus, de se procurer ces billets-là, parce que maintenant, c'est limité, là. Ça sera va être juste dans la semaine, certains jours de semaine, etc., etc. Alors, je vais vous faire part maintenant, avant que notre émission se termine, l'évaluation des cartes de fidélité. Les meilleurs sont Beauty Insider Sephora. Le montant dépensé pour obtenir une prime de 100 $ est seulement de 222 $. The Body Shop Love for Your Body, 800 $ pour avoir le droit à 100 $. Espace Beauté Family Prix, 1000 $ pour avoir le droit à 100 $. La scène de Cinéplex Divertissement, 1000 $ pour avoir le droit à 100 $. C'est quand même 10 %. Hein? Le grand buveur de thé, David Stee, 1000 $. Alors voilà, ça vous donne une idée. Hein? Via préférence, via rail, c'est bon aussi, ça. Bon, alors, c'était notre émission d'aujourd'hui, Kiosque Magazine. J'espère que ça vous a plu.